Radio Spirale. La librairie Pauline recevait en octobre 2011 Milad Douéhi, historien et titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques de l'Université Laval. Marie-Andrée Lamontagne le rencontrait pour un entretien autour de son dernier essai intitulé « Pour un humanisme numérique ». Douéhi est bien au fait des changements technologiques qui affectent notre époque et nous en trace un portrait très juste, ni trop exalté, ni trop pessimiste.
De cette introduction. Alors, conférence, enfin plutôt entretien, hein, on va discutailler et puis on verra bien ce qui va en sortir à partir de ces deux ouvrages que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter notre invité. Alors, entretien bien sûr, mais il y a une période d'échange avec le public. Et ça tombe bien parce que ça va, enfin la rencontre aura quelque chose de convivial étant donné le lieu, étant donné l'atmosphère feutrée là qui s'est mise en place. Et donc, on va aménager une pause entre le premier entretien que nous allons faire, et puis après la pause, 10 minutes, le temps de se dégourdir les jambes, comme il se doit, selon la formule ici éprouvée. Eh bien, nous pourrons poursuivre cette fois-ci sous forme de questions, et Monsieur Douéhi se fera un plaisir d'échanger avec vous. Alors, Milad Douéhi, vous êtes historien de l'Occident moderne. C'est comme ça qu'on peut vous présenter. Vous êtes bien sûr chercheur à l'université, essayiste. Là, c'est tout récent, vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université Laval. La chaire est de création récente, 2010, à Québec donc. Et au Seuil, vous avez publié notamment... Les ouvrages sont là, donc la grande conversion numérique. Et ça, c'était un essai qui a paru en 2008 dans la collection, l'excellente collection La Librairie du 21e siècle, et qui a été réédité depuis dans la collection Point, augmenté d'un texte intitulé Rêverie d'un promeneur solitaire. D'un promeneur numérique, c'est ça, donc qui est une allusion transparente aux rêveries d'un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, et qui montre bien d'ailleurs, d'une certaine façon, certainement, que vous avez lu, et de quoi est formée votre bibliothèque. Mais à la différence de Rousseau, je dirais volontiers ombrageux par rapport à ses contemporains, vous êtes de plein pied dans l'époque contemporaine, et notamment dans l'ère numérique, tout en gardant éveillé, bien sûr, votre jugement critique. Et là, vous venez de publier dans la même collection Au Seuil, Pour un humanisme numérique, qui est la raison d'être de votre présence ici ce soir. Donc, votre propos, en fait, c'est de s'interroger sur l'imaginaire numérique, ce qu'il peut engendrer, ce qu'il suppose. Il y a, dans cet essai, chez vous, une volonté de comprendre ce qui se passe, sans technophobie, ni technolâtrie, je dirais. C'est un essai tout simplement passionnant. Vous rappelez, vous en appelez à l'instauration d'un humanisme numérique, comme on a dit. Ce dernier étant, et je vous cite là-dessus, la convergence entre notre héritage culturel complexe et une technique devenue un lieu de sociabilité sans précédent. Alors, ma première question, ce serait la suivante. Qu'est-ce qui, jusqu'ici, à empêcher, pourrait-on croire, l'instauration d'un tel humanisme numérique, puisque vous en appelez à sa venue. Et qu'est-ce qui le rendrait aujourd'hui probable? Est-ce que l'effet de nouveauté du numérique serait déjà en train de s'estomper, permettant justement un retour, non pas dans le rétroviseur, mais en tout cas un retour vers le passé, vers le patrimoine, vers la culture humaniste? Et rendant possible une sorte de synthèse des deux.
Je crois qu'en grande partie, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, non pas nécessairement un retour vers le passé, mais plutôt c'est notre propre évolution vis-à-vis du numérique. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il me semble qu'on parle sans cesse aujourd'hui, par exemple, des nouvelles technologies. Or, ces technologies ne sont plus nouvelles. Elles sont avec nous dans notre quotidien depuis un certain temps, et elles ont modifié de manière inédite, insoupçonnée même, notre quotidien. C'est en partie cette dimension-là qui m'a incité à parler d'humanisme numérique. Mais je crois qu'il y a aussi une autre dimension, parce que le mot humanisme, il faut dire, il n'est pas à la mode aujourd'hui, et surtout il n'est pas à la mode quand on parle de culture ou de technologie informatique ou de numérique en général.
Il paraît même une contradiction.
Moi, je suis pas sûr. Et mon argument,
moi non plus, mais
voilà.
Tout même.
Et ce que j'ai voulu essayer de montrer ou de démontrer en tout cas, c'est plusieurs choses. La première, c'est que l'évolution sociale de nos rapports avec le numérique est dans une continuité de l'évolution du monde occidental. Et là, j'ai fait appel à certains textes de Claude Lévi-Strauss qui, depuis les années 56 jusqu'à la fin de sa carrière et de ses écrits, a postulé l'existence de trois humanismes qui ont marqué de manière tout à fait radicale l'évolution de l'Occident. L'humanisme classique, celui de la Renaissance, qu'il appelle humanisme aristocratique, qui était lié, associé à la découverte des textes de l'Antiquité, l'humanisme bourgeois et exotique qui est celui du XIXe siècle et qui pour lui a été responsable pour la naissance de la méthode comparative et du coup des grandes sciences sociales et humaines qui sont les nôtres aujourd'hui, et finalement le sien qui est l'humanisme démocratique, qui est celui de l'ethnologue et de l'anthropologue, qui admet à nouveau ce qui a été exclu par les autres humanismes, c'est-à-dire l'oralité, le mythe, tout ce qui n'appartenait pas au domaine ou l'ordre de la rationalité occidentale. Il m'a semblé, si on accepte cette schématisation qu'on peut discuter de Claude Lévi-Strauss, le numérique, à la fois dans la manière dont il modifie notre rapport avec notre héritage, avec notre patrimoine, mais en même temps avec ce qu'il introduit de nouveau, invite un quatrième humanisme que j'ai appelé humanisme numérique. Et du coup, le mot humanisme s'inscrit dans cette continuité. Il y a une autre dimension qui, pour moi, est très, très importante. C'est qu'on a souvent insisté, et c'est là, par exemple, le cas de Lévi-Strauss est exemplaire, que ce qui caractérise le plus l'homme occidental, c'est son rapport avec le discours et le langage et la langue. Mais on a souvent oublié quelque chose de simple qu'on a connu depuis les Grecs et bien même avant, c'est que ce qui aussi marque l'humain, c'est sa manière d'habiter et de modifier l'espace. Et le propre de l'homme est d'habiter l'espace. On construit des seuils, des espaces spécifiés pour tel ou tel usage, un lieu de culte, un lieu du privé, un lieu de travail, ainsi de suite. Or, on est en train tous de vivre une modification de notre espace, à la fois urbain et privé, grâce et avec la culture numérique. Et c'est cette dimension que j'ai voulu aussi mettre en avant.
Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. Vous avez d'abord parlé de continuité, je ne sais pas si le terme révolution, du coup, révolution numérique est approprié, puisqu'il s'agit d'une continuité. Mais il s'est tout de même trouvé, alors ça c'est une première chose, je vais peut-être vous demander de commenter plus longuement là-dessus, il s'est tout de même trouvé des voies régulièrement pour parler de changement de paradigme, selon l'expression consacrée. Est-ce que cette continuité que vous décrivez suppose aussi un changement de paradigme, ou on est encore dans ce qui a marqué l'histoire de la civilisation occidentale?
Donc je crois qu'on est en train de vivre une mutation importante qui peut être qualifiée comme un changement de paradigme, parce que le numérique a à la fois modifié l'écrit même dans les cultures occidentales et même ailleurs. C'est quand même quelque chose de tout à fait radical, en partie à cause de la nature du code numérique, qui est une forme d'écriture, mais en même temps qui est une forme technique. On n'a jamais eu l'équivalent dans notre civilisation. Mais au-delà de là, je dirais même, si on parle de continuité, en tout cas pour moi, il ne faut pas du tout supposer que c'est une continuité harmonieuse. Plutôt, il y a des ruptures qui s'inscrivent au cœur même de ces continuités. Par contre, ce qui reste, et c'est là en effet la dimension civilisatrice, si j'ose dire, de la numérique, c'est les reconfigurations du patrimoine et des concepts clés de notre héritage, et surtout des pratiques associées à ce patrimoine, à ces héritages.
Oui, ça vous en parlez, notamment on y reviendra, par exemple la dimension de l'anthologie, le retour en force du récit aussi, enfin qui structure.
Exactement.
On va pouvoir aborder ces thèmes, en fait, ces sujets-là qui sont au cœur de votre livre. Mais le deuxième aspect que vous avez évoqué au tout début, c'est aussi que l'être humain, vous l'écrivez d'ailleurs, ne se définit pas uniquement en tant qu'être de langage, mais aussi en tant qu'individu capable de façonner, comme vous venez de le rappeler, l'espace en lieu de vie et de sociabilité. Les lieux de sociabilité induits par le numérique sont d'un autre type, même s'ils prennent souvent appui sur des modèles anciens, donc qu'ils transforment. Avez-vous l'impression que l'homme domine le numérique et la technologie qui lui est associée dans le façonnement de ces espaces, ou est-il dominé par elle?
Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. Il y existe une dynamique des usages effectifs ou efficaces qui met en place un jeu de va-et-vient entre les plateformes qui sont parfois vouées à des formes de formatage, et en même temps, il existe des moyens de contournement, des astuces qui sont élaborées, même d'une manière inconsciente, par les utilisateurs qui leur permettent de les modifier d'une manière beaucoup plus libre.
Par exemple,
on a énormément d'exemples. Il existe par exemple Facebook, c'est le cas exemplaire. Il n'a pas été conçu pour être le lieu de sociabilité numérique. Il a été conçu pour être le lieu de rencontrer, retrouver des gens qu'on connaissait déjà dans un milieu très très spécifique, qui étaient les anciens de telle ou telle faculté, et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait avec, c'est tout à fait autre chose. Effectivement, il y a un élargissement qui a évolué en partie en fonction des usages. Il me semble ce qui est important à insister est au-delà de la dimension normative de la technique qui existe en partie, c'est également le pouvoir des usages et des utilisateurs. Et je crois que c'est parfois difficile à cerner parce qu'on a la tendance à voir une forme homogène de ce qui se met en place. Mais on a également Twitter, c'est pareil. On peut faire toute une série de listes de ces grandes plateformes qui sont aujourd'hui les plus dominantes et qui ont été contournées. Il faut se rappeler aussi qu'à l'origine d'une grande partie de ces plateformes, ce n'était pas du tout un modèle ni économique ni commercial. Par exemple, Flickr, qui est peut-être pour l'instant pour les images le plus grand succès, il a été fabriqué parce que c'est un inventeur était en train d'essayer de coder un jeu vidéo. Et pour échanger les images, ils ont créé quelque chose qui est devenu Flickr. Ils ont laissé tomber leur jeu de vidéo et on a Flickr aujourd'hui. Il y a pas mal, mais ça c'est classique dans l'histoire des sciences comme ailleurs. Mais ici, ce qui est important, c'est que aussi notre rôle à nous comme utilisateurs joue également.
Oui. Et donc, allez-vous jusqu'à dire que, en fait, la chose échappe à ses concepteurs à l'origine?
En partie, moi je dirais oui. C'est-à-dire, si on regarde de près les conceptions des créateurs des plateformes, c'est souvent pas ce qu'on a à la fin. On a beaucoup d'exemples, par exemple, avec même les produits d'Apple qui sont aujourd'hui peut-être les plus normatifs. On a fait tellement de choses avec qui n'étaient pas concevables, ni conçues, ni imaginées au début. Et c'est ça ce qui est intéressant avec le numérique. Parce qu'il existe une partie qui permet de modifier le produit, si vous voulez, si on peut parler dans ces termes-là, mais en tout cas la plateforme ou l'objet logiciel lui-même.
Mais que l'objet échappe en partie à ses concepteurs, je veux bien, mais on peut dire tout de même que ses concepteurs tirent drôlement bien leur épingle du jeu, parce que Facebook est tout de même une entreprise florissante.
Oui. Je suis entièrement d'accord, et à mon avis, la difficulté qu'on a aujourd'hui, elle est vraie et réelle, et elle peut inquiéter. On est en train de basculer vers des modèles de boutique unique. À tous les égards, c'est un vrai danger. C'est-à-dire pour les livres, aujourd'hui, on a trois grandes plateformes qui dominent, entre Amazon, iBooks, ainsi de suite. Pour la sociabilité, il est évident que pour l'instant, Facebook domine de telle manière, il existe seulement le seul réseau social qui a pu survivre, c'est le premier, c'est Orkut, et qui est exclusivement brésilien, qui appartient à Google, mais qui n'a aucun succès ailleurs. Pour Twitter, il y a une seule plateforme. C'est un vrai danger, il y a une dominance de ces grosses plateformes, et il nous faut essayer, effectivement, est-ce une caractéristique, comme certains scientifiques le croient, de la nature même du réseau, c'est-à-dire il y a tendance à converger vers des nœuds qui vont dominer pendant un certain temps, jusqu'au moment où quelque chose neuf, inattendu, émerge et les déplace. Quand même, on a vu pas mal de ces... Il faut se rappeler aussi que la vie de ces plateformes est relativement courte. Facebook peut-être sera avec nous pendant 5 ans, mais on n'est pas sûr. Et AOL, pendant il y a quelques années, dominait tout. Aujourd'hui, comme entreprise numérique, elle n'existe presque plus. Mmh. Et à l'époque, elle était l'équivalent de ce que Facebook est aujourd'hui. Mmh. Et c'est un peu complexe à dire, mais pour la dimension économique, je suis d'accord avec vous, il faut faire énormément attention. Et surtout, il faut, et c'est là où moi j'ai fait le plaidoyer déjà dans le premier bouquin, pour le logiciel libre et surtout pour tout ce qui est l'accès libre et l'accès ouvert et surtout les formats ouverts. Parce que Facebook, c'est une plateforme fermée. C'est à sens unique. On peut tout faire dans Facebook, mais on peut presque rien faire en sortant de Facebook, oui, hein. Avec les données qui sont sur Facebook. Et à mon avis, c'est le mauvais modèle. Et ça, c'est un modèle dangereux aussi.
Oui. Vous distinguez dans votre livre, il y a plein de distinctions, mais il y en a une notamment entre l'informatique, l'ère informatique et l'ère numérique. L'ère informatique, écrivez-vous, se caractérisait par des manipulations restreintes et fixes avec une machine. C'était même un peu compliqué. Il fallait en passer par toutes sortes de chemins pour arriver, oui, à extraire des données. Et le numérique, qui lui, se caractérise par un accès souple et multiple, et puis aussi ancré dans la vie quotidienne, et puis mobile également. Il y a quelque chose d'éminemment nomade dans le numérique qui n'était pas présent, en tout cas pas au même degré dans l'informatique, certainement pas à ses débuts. Est-ce que c'est dans ce passage de l'informatique au numérique que se vérifie surtout le changement de paradigme qu'on a évoqué tout à l'heure?
À mon avis, oui, parce que l'informatique a une histoire assez particulière quand même. On a souvent oublié. C'est une science qui a commencé comme une branche des mathématiques et qui s'est très très rapidement autonomisée et devenue science à part entière. Et puis après, elle est devenue une industrie, ce qui est très rare pour les sciences. À ma connaissance, il n'existe que la chimie qui est l'équivalent. Mais au-delà de là, elle est devenue une culture, surtout une industrie des cultures, une industrie culturelle et surtout une culture. Et c'est dans cette évolution qu'on voit le changement de paradigme, même dans les domaines des sciences soi-disant pures. Et dans ce sens-là, l'informatique n'était pas pure. Et c'est ça sa puissance et l'origine de son pouvoir, parce qu'elle était dès le début hybride. Et à mon avis, ce qu'elle est en train de faire, et c'est un changement de paradigme, elle est en train de donner naissance à une culture de l'hybride.
Ce changement est-il conscient? Bien sûr, il se trouve des chercheurs pour réfléchir à ce qui se passe, mais chez nous tous, ce changement est-il conscient? De la même manière que dans le passé, les découvertes technologiques qui ont marqué l'évolution des sociétés occidentales, ils n'étaient peut-être pas toujours perceptibles à l'œil nu, en tout cas pour les contemporains, là, et des bouleversements qu'ils induisaient.
Oui. Je crois que c'est un peu différent des précédentes découvertes ou innovations, dans le sens où, même quand on regarde l'électricité ou la voiture que souvent on utilise, oui, comme exemple, à mon avis, ça ne tient pas très bien, la comparaison, elle ne tient pas, pour deux raisons. Parce que l'électricité, c'est vrai, elle est restée une infrastructure absolument essentielle et inévitable. La voiture également pour le transport et l'ouverture vers la géographie humaine, néanmoins c'est déterminant, on le sait très bien. Alors qu'avec le numérique, elle implique tout individu, s'il fait le choix, à la fois non pas d'être utilisateur, mais aussi d'être codeur. Et c'est une différence radicale. On ne peut pas tous être des ingénieurs électriciens, électriques, ou des gens qui peuvent construire une voiture. Mais avec le numérique, on peut tous coder, parce que c'est un langage qu'on peut apprendre. Et aujourd'hui, il est relativement facile de l'apprendre. C'est une forme de compétence qui est devenue de plus en plus naturalisée dans nos systèmes, même si elle n'est pas encore introduite de manière aussi explicite dans la pédagogie, mais néanmoins pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes, elle est disponible et accessible. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas connu avant.
Oui, mais quand vous dites coder, c'est-à-dire programmer?
Absolument. Parce qu'il faut se rappeler que le code, il est lisible, il est sujet à commentaires, il est accessible et on peut l'apprendre comme autodidacte. En effet, quand on regarde de près, les gens qui ont eu le plus grand succès d'habitude en codant ne sont pas des gens nécessairement diplômés. Ce sont des gens qui ont appris relativement jeunes et qui ont décidé de suivre la voie de leur inspiration tout en apprenant au fur et à mesure. Il y a une forme de compétence de savoir lire et de savoir écrire qui est inscrite dans la nature même du code et son accessibilité et surtout sa lisibilité. Mmh. Et les choses strictement informatiques, c'est-à-dire les algorithmes, les structures mathématiques, on les apprend et elles deviennent beaucoup plus accessibles sans nécessairement avoir eu l'entraînement et l'éducation classique.
Ouais. Ce qui fait que dans la civilisation numérique, elle, pourrait-on dire, elle est éminemment, intrinsèquement démocratique.
Dans ce sens-là, oui.
Dans ce sens-là, dans ce, pas absolument. Au sens politique du terme, mais au sens de l'individu, de l'accès de l'individu.
Absolument. Mais aussi, on a parlé de comme une culture de l'amateur, mais dans une définition un peu élargie et forte de l'amateur. C'est-à-dire, ce n'est pas le domaine des gens spécialisés exclusivement. Alors, effectivement, dans sa première génération, dans des premières générations, c'était de grands codeurs, de grands ingénieurs, de grands mathématiciens qui ont mis la base de ce qu'on est en train de travailler avec ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le code, il est devenu un coller-copier en grande partie avec des petites modifications pour certains, et on peut construire quand même pas mal. Mais au-delà de là, je crois, c'est l'accès à la source. Dans le sens technique du code qui est déterminant également.
Oui. Alors l'accessibilité, parlons-en. Vous relevez un certain nombre de mythes fondateurs de la culture numérique et au rang desquels se trouve le rêve d'une culture accessible pour tous, appropriée par chacun, que chacun peut s'approprier, la transformation de l'héritage de l'humanité, l'universalité de l'individu, en fait de la conscience qui et ces mythes fondateurs peuvent-ils avoir une portée mythique et je dirais épistémologique aussi grande que l'ont eu certains grands mythes religieux ou à caractère religieux, par exemple, je sais pas moi, le paradis terrestre. Est-ce que c'est vraiment du même ordre les mythes que crée la civilisation numérique par rapport aux mythes qui irriguent la civilisation occidentale?
À mon avis, oui. Par exemple, le mythe de la bibliothèque d'Alexandrie.
Oui.
Ou la tour de Babel, qui joue un rôle assez déterminant dans le discours, dans les conceptions, derrière certains des plus grands projets en informatique ou en numérique, en ce rôle, cette fonction de forme de croyance qui est de nature religieuse et qui ressemble, qui reproduit en partie le même statut, le même fonctionnement de ces mythes fondateurs qu'elle vient de la tradition de la Genèse ou ailleurs. Il y a également une dimension mythique dans la culture numérique, dans sa conviction que de la globalisation, une forme d'égalité qui est un présupposé et à mon sens est un préjugé. Mais curieusement, et c'est là où on voit aussi les modifications que l'usage peut introduire avec surtout l'exploitation de nouvelles valeurs qui sont permises et autorisées par la technique, on a vu avec ce formatage universel, ce sont 4 ou 5 quand même grandes entreprises qui dominent presque la totalité de notre vie quotidienne avec les objets et les outils numériques. Néanmoins, on a vécu et on est en train de vivre de plus en plus un retour du local, une forme de diversité, un retour vers à la fois les langues, les cultures, les mœurs locales, en partie grâce par exemple à une technique comme la géolocalisation.
Ah oui, comme une conséquence, comme un effet heureux
du
numérique.
Exactement.
Ou de la civilisation
mais
numérique.
Avec certaines contraintes néanmoins. Oui. Mais ça reste le cas que quand même ça a permis un retour vers ces dimensions locales, régionales dans certains cas, qui autrement étaient en très, très grande difficulté.
Oui.
Et moi je trouve là quelque chose où on voit cette dynamique un peu complexe et riche entre la dimension globalisante normative et cette autre dimension qui permet des usages beaucoup plus diversifiés.
Oui, mais tout de même, y a-t-il pas une sorte de relativisme un peu pernicieux à penser que c'est du même ordre, ou ce serait d'un ordre similaire, les mythes créés par, qui naissent de la civilisation numérique et ces grands mythes? Après tout, Google Books n'est pas dans ses visées, dans ses effets, la même chose que la bibliothèque d'Alexandrie, pas tout à fait, non?
Oui, bien sûr, mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous, mais quand on lit les gens de Google, c'est leur référence.
Mais c'est le discours qu'ils construisent. Mais
je crois que c'est au-delà de là. Je crois qu'il y a une conviction naïve, mais qui est devenue après un discours à la fois de marketing, mais en même temps quelque chose qui était intériorisé. Et c'est ça le pouvoir du mythe. On l'intériorise sans s'en rendre compte. Et là, ils sont devenus, pas les victimes, mais que néanmoins, ils sont tombés dans le piège de leur propre discours de construction de leur identité culturelle. Et à mon avis, ça touche à quelque chose de très profond pour moi. C'est-à-dire, quand on regarde de près, surtout dans le cas américain, parce que ça, c'est très éloquent et très parlant, il existe une tradition américaine qu'on désigne avec « the robber barons », les parents voleurs. C'est-à-dire, ce sont les gens qui ont fait une fortune énorme à la fin du 19e et du 20e siècle en créant des monopoles. Les Mellon, les Ford, les Vanderbilt, ainsi de suite. Alors, ces gens-là, quand on regarde leur carrière, c'est très étonnant. Ils étaient des gens relativement de famille pauvre et qui sont arrivés comme des immigrés aux États-Unis. Après leur fortune, ils ont donné, légué à leur famille de l'argent. Mais pour le reste, ils ont créé les plus grandes fondations culturelles aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on regarde ce que j'appelle moi-même les Silicon Barons, ce sont c'est-à-dire les grandes fortunes numériques, ils font tout sauf la culture. Et c'est très très étonnant, et ça exprime quelque chose de fondamental. Ils sont tellement convaincus qu'ils sont en train de produire la culture, qu'ils n'ont plus besoin de la financer. Et c'est ça le problème. Et c'est
ils font dans l'humanitaire.
Oui, mais pas exemple. Dans l'humanitaire, ils font énormément de très belles choses. Mais par exemple, ils ne donnent jamais pour des livres, pour la musique, pour l'art, pour un film. C'est étonnant. Moi, j'ai fait l'étude, j'ai regardé des fondations de toutes les grandes entreprises, presque zéro. Et ils, quand même, ils disposent de sommes énormes. Mais je crois que c'est là où on voit il y a une modification de leur point de vue de ce que c'est que la culture en fonction de ce qu'ils sont en train de produire.
Oui.
Et c'est en partie ce mythe qui a été intériorisé.
Et donc, vous vous refusez certainement à diaboliser ces grandes entreprises nées de la civilisation numérique, puisque vous leur prêtez une forme de naïveté au départ dans l'élaboration de ce mythe.
Oui, mais par contre, il faut les éduquer. C'est-à-dire, il faut leur expliquer que leurs propres mythes ont une histoire et ils ne sont pas aussi simples qu'ils le croient. Ils ne sont pas aussi linéaires, ils ne racontent pas nécessairement le même récit qu'ils sont en train de nous reproduire.
Oui.
Et je crois là, il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup d'exemples comme ça. Google, c'est un cas classique parce qu'ils ont toujours essayé de choisir ou bien des citations clés ou bien des figures déterminantes dans l'histoire des sciences ou autre chose. Et ils ne maîtrisent même pas. C'est assez étonnant.
Ouais. Mais qui écrit ces mythes? Qui élabore ces mythes? Bien sûr, vous avez dit tout à l'heure, il y a des convictions, ça procède de convictions au départ, et puis après, ça se transforme en évidemment argument de marketing. Et puis là, il y a tout un autre discours qui se met en place. Mais tout ce qu'on peut entendre, qui élabore les récits ou les mythes liés au monde numérique? Est-ce que nous tous, les usagers, avons un rôle dans ce récit?
Oui, absolument. On est en train de l'écrire, le diriger nous-mêmes, parce qu'on est en train de le vivre. Et ce que ce récit est, c'est en partie comment on l'investit, de quelle manière, et surtout de quelle manière on choisit de disposer des outils pour réanimer ces héritages, parfois oubliés et parfois qui sont inconscients, comme avec la pratique ontologique ou autre chose, qui quand même sont des pratiques les plus lettrées.
Oui, donc alors justement la pratique ontologique ou ontologiste, enfin il faut voir, elle consiste, et ça c'est une caractéristique de la culture, des objets culturels qui naissent de la culture numérique, c'est le collage en fait à la puissance à la puissance 10, c'est s'approprier des, alors ça met à mal évidemment le droit d'auteur et toutes ces notions sur lesquelles s'était construite une autre culture. Cette autre culture, elle est battue en brèche.
En tout cas, elle est en crise et elle doit s'adapter à mon avis, parce qu'il faut se rappeler que la culture du livre et de l'imprimé, qui a donné lieu au droit d'auteur, à ces figures à la fois juridiques et économiques, a été construite autour d'un objet et autour d'une industrie qu'on appelle la chaîne du livre. Or, cet objet, aujourd'hui, n'est plus le seul objet culturel symboliquement dominant. Si on modifie de paradigme et d'objet, il faut aussi adapter à la fois la loi et les pratiques. Il se trouve que, malheureusement, on est tellement investi de manière économique et morale, pour reprendre le droit moral, qu'il nous est très très difficile de le faire. Par contre, pour moi, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est effectivement trouver les moyens de faire évoluer les notions et les conceptions. On ne peut pas retenir la notion de la figure de l'auteur telle qu'on l'a héritée de la fin du XVIIIe siècle. Il faut se rappeler quand même que l'auteur a été inventé comme figure juridique à la fin du XVIIIe, telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est avec texte classique de Kant, qu'est-ce qu'un livre, qui vous dit que c'est un contrat qui existe entre l'éditeur et l'auteur, puis après pour la distribution, et ainsi de suite. Avant, l'auteur, c'était autre chose.
Et la rémunération pour cet auteur, c'est même après.
C'est même après.
Oui.
Et aussi, on a des documents quand même intéressants qui nous problématisent cette conception. Elle a toujours existé en Europe, et ça nous renvoie vers ce que moi j'appelle l'héritage ambivalent, pour ne pas dire conflictuel, des siècles de Lumière, la Constitution américaine est un texte assez particulier parce que c'est la seule constitution démocratique, à ma connaissance, qui inclut une clause consacrée aux droits d'auteur. Et elle dit deux choses très différentes pour ne pas dire contradictoires. Elle dit d'une part, il faut protéger et rémunérer, compenser les créateurs, les innovateurs, les écrivains, mais en même temps, il faut s'assurer que la durée soit relativement courte parce qu'il faut garantir le progrès des sciences et la libre circulation des idées. Aujourd'hui, on est en train de vivre cette contradiction. On ne cesse de rallonger la protection des droits d'auteur qui font en contradiction contre la libre circulation des idées. Et ces deux conceptions ne sont pas harmonieuses, elles sont exclusives. Ou bien on va accepter un modèle, ce qu'on appelle le bien commun, ou bien on va accepter un modèle beaucoup plus représentatif qui était celui de la figure de l'auteur classique.
Oui, et c'est la lutte, en fait, on la voit se dérouler sous nos yeux.
On la vit tous les jours.
Nos sociétés sont construites sur des structures anciennes, héritées de cette civilisation du livre.
Tout à fait.
Et là, elles sont en train d'évoluer. Alors, un des débats auxquels donne lieu la culture numérique, c'est précisément le libre accès. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un défenseur, vous, de l'open source et vous écrivez, les institutions culturelles, en choisissant de restreindre leur contenu, parce que c'est aussi la voie que suivent plusieurs éditeurs, au nom du droit d'auteur et de la rémunération, de la juste rémunération, s'exclut de ce système. Mais ne peut-on imaginer un système numérique restrictif, réglementé, sélectif, cohabitant avec un monde numérique ouvert et en open source permanent, ou c'est une fantaisie de...
Pour moi, ça fonctionne pas très bien pour une simple raison, parce que la tendance de l'objet numérique, c'est d'être partagé, d'être converti et d'être travaillé par les outils numériques eux-mêmes. Si on va introduire des contraintes pour les usages, il va toujours avoir des résistances et des détournements. On a déjà vu ça. Et on va continuer à le voir. Ce qu'il faut imaginer et inventer, c'est une autre manière de rémunérer les créateurs et les auteurs. Il existe des solutions, il y a des gens qui les ont proposées, mais néanmoins, il faut se rappeler quand même, c'est un conflit économique majeur qui touche à énormément de choses, de dimensions, d'états. Et là, c'est un vrai problème. Mais on est en train de vivre une évolution qui va nous mettre devant ou bien deux sorte d'accès, un accès relativement libre. Mais libre ne veut pas dire gratuit. C'est très très important, à mon avis, de maintenir cette distinction. C'est la liberté d'accès qui est fondamentale. Puis après, on peut payer, on peut rémunérer sans souci. Mais ce sont les contraintes qui sont introduites parce qu'elles sont jamais... elles s'accommodent pas aux pratiques, aux usages qu'elles créent des problèmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est très célèbre auteur, Novarina. On vient de publier un de ses livres en numérique, il m'appelle, me dit « Milad, tiens, j'ai un objet numérique ». On l'achète et on voit tout de suite que l'éditeur a décidé de ne pas permettre de copier plus de 4 lignes et de partager. Alors évidemment, ça n'a pas du tout fonctionné, parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça avec ces contraintes de ce genre-là. Du coup, il faut imaginer une autre manière de redéfinir la propriété intellectuelle, non pas pour la nier, mais plutôt pour l'affirmer, mais dans le contemporain et dans l'actuel.
Oui. Et donc cet auteur, Valère Novarina, en l'occurrence, il réagissait comment aux contraintes données, imposées par l'éditeur?
Il comprend, mais en même temps, il veut que ses idées circulent, que ses mots circulent, et je crois qu'il n'est pas aussi familier, aussi à l'aise avec le numérique, mais il est en même temps surpris, et il comprend les résistances. Que l'objet numérique, c'est-à-dire le problème qu'on a souvent vu, à mon avis, en tout cas c'est mon opinion, c'est-à-dire dans le numérique, pour ce qui touche au livre et à l'imprimé, on a essayé de reproduire l'objet tel quel, c'est-à-dire un modèle de la restitution, et c'est un vrai piège, parce qu'il ne faut pas du tout reproduire tel quel, parce que la spécificité du livre, c'est sa fixité, il suffit de regarder un livre, on ne peut rien modifier, sauf si on lui fait violence. On déchire une page, mais autrement on peut rien. Alors que l'objet numérique est, en tout cas selon moi, voué à la conversion, dans le sens technique du terme, d'un format à un autre, d'un site à un autre, à une forme d'échange qui n'est pas la même quand dans le cas du... Et du coup, il faut repenser l'objet dans ce sens-là. Par contre, ce que la majorité des éditeurs sont en train de faire, c'est de faire passer l'objet numérique tel quel, ou maintenant on dit l'objet augmenté, en ajoutant des liens multimédia ou d'autres contenus, entre guillemets, mais cela n'est pas suffisant. C'est la liberté de la manipulation de l'objet qui est importante aussi.
Dans la foulée du droit d'auteur se pose la question de la propriété intellectuelle. Qui crée et où est qui est l'auteur? Qui est, parce que justement cette pratique de l'anthologie qui se généra, en tout cas qui serait au cœur de la civilisation numérique, elle entraîne une sorte de pillage joyeux à la fois des œuvres du passé, mais des contemporains et puis qui ne s'encombrent pas des notions. Alors des notions habituelles de plagiat, de... Alors, que faire, que répondre? Est-ce qu'il faut changer vraiment aussi nos tournures d'esprit en ce qui concerne la propriété intellectuelle?
En partie, à mon avis, nous sommes obligés de le faire, mais également, il y a une dimension éthique à la culture numérique qui, pour moi, est très, très importante. C'est-à-dire, il y a des formes de responsabilité qui peuvent être inscrites dans des expressions techniques, comme des licences de Creative Commons ou autre chose, qui respectent à la fois la propriété intellectuelle, qui sont dans des formes d'attribution inscrites à la fois d'une manière informatique, mais aussi sociale, et qui permettent en même temps une libre circulation. Et là, le créateur, l'artiste, peut décider selon quelle manière son œuvre, ses mots vont pouvoir circuler.
Oui. Ce qui représenterait déjà un progrès, en tout cas du point de vue du créateur, par rapport aux pratiques, je sais pas moi, d'un Stendhal ne taisant un peu ses sources italiennes tout en affichant sa culture italienne, mais enfin c'est il y a aussi carrément une traduction dans certains cas pour ses nouvelles.
L'histoire de la peinture en Italie, c'est un très beau livre de Stendhal qui fait 500 pages, dont probablement 375 a été complètement copié. En même temps, c'est un remarquable livre qui n'existe pas en italien et ne peut pas exister en italien. Et du coup, c'est une vraie œuvre, mais il est vrai qu'il y a des pages et des pages à n'en finir qui ont été littéralement copiées. On n'est pas dans le même modèle, à mon avis, parce qu'on n'est pas souvent dans le cadre d'œuvres conçues comme une œuvre intégrale. Ici, on est dans la pratique ontologique ou ontologisante, si vous voulez, dans des fragments, des morceaux, des composables qui peuvent recirculer. Ce qui modifie la donne, c'est tout d'abord la signature, l'association d'une identité numérique à ce fragment et surtout la manière dont on fait circuler ce fragment dans des contextes ou bien neutres, inédits ou qui n'ont rien à voir ni avec l'intention ni avec le contexte premier. C'est dans ce sens-là qu'on voit que cette pratique qui est inscrite dans les outils numériques modifie notre concept de contexte. Et ça, c'est très puissant à mon avis.
Vous avez dit tout à l'heure que, en fait, ce qui a, et puis vous l'expliquez dans le livre très bien, ce qu'a donné la civilisation du livre telle que nous l'avons connue et la connaissons encore, c'est la figure de l'écrivain et son sacre. Du coup, on connaît évidemment des essais fameux à ce sujet. Et ce que donne la culture numérique, c'est, faut-il parler de réhabilitation ou d'émergence? En tout cas, c'est la figure du lecteur.
Oui, c'est un lecteur autorisé, avisé. Le lecteur a toujours existé. Le livre n'a aucun intérêt sans le lecteur, on est d'accord. Et l'auteur est le premier lecteur, quoi qu'on dise. Et évidemment, il y a beaucoup de grands auteurs qui ont travaillé sur des... Mais ici, le lecteur, il est également auteur. Et il est auteur de manière beaucoup plus libre qu'on n'a jamais vu avant dans notre histoire.
Donc c'est un type particulier de lecteur qui naît de la culture numérique.
Exactement. C'est quelque chose des fonctions qu'on a connues dans l'Antiquité comme à la Renaissance, pour ne pas parler du XVIIIe siècle, mais qui aujourd'hui se généralise à une échelle quand même inédite. Mais c'est surtout pour moi, j'ai appelé ça dans des essais que j'ai publiés ailleurs, la Renaissance du lecteur, pour jouer un petit peu sur toutes les associations de ces termes. C'est surtout un lecteur qui a beaucoup plus de pouvoir, qui n'est pas seulement silencieux, et surtout qui est un lecteur écrivain.
Oui, presque un lecteur roi, on pourrait dire, en partie, d'une certaine façon.
Il a quand même des pouvoirs assez étonnants aujourd'hui.
Oui. La culture numérique, faites-vous observer, et là, c'est dans la foulée de ce qu'on vient de dire, élargit la pratique de la scolie antique à l'ensemble des internautes, pour qui le veut. La scolie étant ce commentaire savant, en tout cas tel qu'il était pratiqué antérieurement. Oui. Mais cependant, la pratique de la scolie est une chose, et la nature de cette scolie en est une autre. Le contenu documentaire numérique, la, par exemple la rumeur sur le web qui se répand, les mobilisations Twitter qui atteignent à l'échelle planétaire. Alors le contenu de la Scoli à l'ère numérique, à partir du moment où il se démocratise, peut-il être comparable aux commentaires du lettré et du savant dans l'Antiquité ou même même au Moyen Âge, enfin tel qu'il a vécu peut-être.
Il le peut seulement certainement dans la forme tout d'abord et dans le format. Ça, je crois, on
mais a. Mais pas sur le fond.
Ah, mais pour le fond aussi, il faut regarder que de loin, comme disait Nietzsche, les choses anciennes nous paraissent toujours beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus importantes. Mais quand on s'approche un petit peu de leurs origines, on va trouver des choses parfois banales, parfois pas si banales. Et je crois qu'il y a des deux. Et il ne faut pas non plus qu'on réifie à un tel point notre héritage. Moi, je suis un homme lettré, je défends les pratiques. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus qu'on... toutes les scolies, tous les commentaires qui étaient dans les marges de certains livres n'étaient pas du tout très intéressantes ni très importantes.
Il y avait des erreurs de moines copistes aussi.
Exactement. Oui. Mais je crois ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est le format et la structure qu'on a adapté cette culture du commentaire qui s'est traduite, et là je vous rejoins, avec une culture de la réputation. Et ça, c'est différent. Dans le monde lettré, dans le monde savant, qui est aussi un monde de la réputation, il y a la longue durée qui joue pour avoir une vraie grande réputation. Aujourd'hui, on est dans des phases temporelles relativement restreintes, avec ces moments qu'on vous dit sur Twitter ou autre chose, et puis après, il y a une disparition totale. Mais néanmoins, la structure est même, et il y a des inversions. Moi, c'est ça ce qui m'a fasciné. Par exemple, cette pratique de la scolie ou de l'anthologie était nécessaire à cause de la rareté, de la difficulté d'accès. Aujourd'hui, on est en train de vivre dans une ère de la surabondance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On adopte la même technique pour le contraire. C'est très, très, très intéressant. Pour la réputation, c'est pareil. Ce sont ces inversions qui sont déterminantes.
Oui. Vous dites donc ce qu'il y avait dans le passé, c'était de s'inscrire la scolie antique, on va dire. Elle s'inscrivait dans la durée, ou en tout cas le commentaire savant s'inscrivait dans la longue durée, mais jouait aussi dans cette réputation la reconnaissance des pères, enfin l'érudition. Est-ce que toutes ces notions, que devient l'érudition dans la culture numérique? Est-ce qu'elle est encore concevable? Que deviennent les hiérarchies anciennes?
C'est des questions différentes. En tout cas,
alors prenons-les l'une après l'autre. Ouais,
pour moi, en tout cas, ce sont des questions différentes. Tout d'abord, avec, disons, le respect vers les anciens, disons, c'est un thème classique que Bacon, déjà, le chancelier Bacon a expliqué d'une manière qu'il faut toujours peut-être répéter. En tout cas, pour moi, je l'ai appris chez lui. Il a dit, parce que tout le monde disait à l'époque, à la fin du 16e, début du 17e, que nous sommes les enfants des anciens. Il lui dit, c'est tout à fait le contraire. Nous sommes leurs plus âgés, plus vieux qu'eux. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'ils savent et on sait plus qu'eux. Et je crois qu'il y a cette inversion qui est importante et on la retrouve chez Google, On the Shoulders of Giants. C'est exactement une citation de Bacon, en effet.
Tout à fait. Sur les épaules des géants.
Exactement.
Nous voyons plus loin.
Et je crois qu'on est en train de faire ça. Alors, évidemment, au début, avec cette manière populaire qu'on a aujourd'hui, et moi je trouve que c'est très très positif, parfois ça donne l'idée qu'on est en train de s'éloigner de la grande tradition érudite et savante. Alors le premier élément. Le second élément, c'est après quel est le rôle, ou si vous voulez, ou l'influence dans la production de nos concepts, de nos... conception, ça c'est un peu différent. Ce qu'on voit avec la culture numérique, avec la généralisation telle qu'on la vit ou la témoigne aujourd'hui, c'est plus ou moins ce qu'on a pu trouver dans l'Antiquité. On a beaucoup d'exemples qu'on peut donner pour illustrer des reproductions du même ordre qui donnent naissance à des projets et à des êtres, à des objets culturels nouveaux et innovateur.
Par exemple, dans l'Antiquité, la pratique de l'encyclopédie ou enfin de ces recueils de textes,
des lieux communs,
les florilèges.
Absolument, exactement. Anthologie en grec, c'est cueillir les fleurs les plus précieuses et en donner, on disait en français exactement la même chose. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, même pour exprimer la sagesse. J'ai cité des textes de spécialistes, des écrits pré-bibliques en hébreu ancien, et dans tous les cas, on dit que pour articuler, pour exprimer, faire circuler la sagesse, pas seulement la vérité, c'était toujours des formes fragmentaires, ontologiques, qui se prêtaient à la petite modification et à la circulation. Il y a une forme de préservation à la fois de la mémoire, dans ses formes, qui est très très puissante également.
Oui. Mais il y a tout de même la notion d'auteur au sens d'autorité qui allait dans l'Antiquité et puis jusqu'à il y a peu existait, était prégnante. Cette notion est-elle encore possible aujourd'hui ?
Dans le sens classique, elle est fragilisée, mais il y a d'autres autorités qui émergent. Les gens qui ont l'influence, ou que ce soit par leur présence, leur visibilité sur le réseau, par le nombre de followers qu'on a, par le nombre d'amis, ou par combien de lecteurs vous suivent. Il y a d'autres formes d'autorité qui se mettent en place.
Tout aussi légitimes, selon vous ?
Bien sûr. Alors, on peut être en désaccord avec la validité, mais elle est légitime tant qu'elle est reconnue par une certaine majorité qui sont libres de leur choix.
Oui. Et donc, que devient l'érudition dans le monde numérique ?
Elle s'enrichit, parce que l'érudition aussi, elle fait, pour, en tout cas pour moi, ne doit pas se dissocier de ce qui fait autour d'elle. Évidemment, il faut préserver l'héritage d'une certaine méthode, mais il faut, et c'est la petite partie polémique de mon essai, c'est de dire aussi aux sciences humaines qu'il faut que ces sciences humaines, dans leur méthode et dans leur regard, s'adaptent et évoluent pour prendre en compte non pas seulement une maîtrise des techniques et des outils, mais pour repenser leur concept fondateur et leur méthode.
Oui. Donc, si je vous comprends bien, pour parler encore plus, j'allais dire simplement, mais surtout brutalement, que tout un chacun, et là je me fais l'écho d'une critique qu'on entend souvent, que tout un chacun puisse être écrivain, que tout un chacun puisse être artiste maintenant, ça ne vous choque pas, vous,
Ça me choque pas tout, surtout que je sais très bien qu'on va être artiste et écrivain d'une certaine manière sans avoir nécessairement le même statut que le nom écrivain artiste décerne dans la culture telle qu'on la connaît maintenant. Il va y avoir l'équivalent, mais je ne sais pas sur quel nom, et probablement sur des noms peut-être un peu relativement légèrement modifiés, et ça, c'est toujours le cas, je crois. Ça, je ne m'en doute pas. Mais pour moi, je trouve cette liberté du savoir libre, lire, du savoir surtout écrire, c'est absolument enrichissant. Évidemment, on peut toujours trouver des choses à critiquer, et moi, des choses qui ne me plaisent pas du tout. Mais la vie est faite comme ça, dans un, comme dirait Pascal, un désordre ordonné.
Oui, parce que tout de même, il y a des erreurs dans Wikipédia, ça a été souligné à plusieurs reprises.
Oui, bien sûr.
Et l'usage pédagogique de Wikipédia, c'est-à-dire le fait que les étudiants se... Là, je me fais l'écho de commentaires de certains professeurs qui disent que, évidemment, quand on demande des recherches à des étudiants, je parle d'étudiants de lycée ou d'école secondaire, là, de faire des recherches, des travaux de recherche, ils se retrouvent fatalement avec la fiche Wikipédia. Et donc là, il y a comme une sorte de savoir qui atteint rapidement un certain plateau. Et même débarrassé de ses erreurs, il n'y a pas de progrès dans la connaissance qui soit possible, en tout cas au même titre que lorsqu'il y a un véritable apprentissage qui s'inscrit dans la durée avec le temps, avec un enrichissement successif. Comme une espèce de bruit qui se fait autour d'un savoir,
oui,
mais
qui
atteint vite ses limites.
Alors moi, je suis en désaccord en partie. C'est-à-dire, Wikipédia est un cas très spécial. Tout d'abord, parce que quand on regarde le modèle éditorial de Wikipédia, et c'est ça la difficulté que j'ai avec la plateforme. Ils ont adopté un modèle de l'objectivité scientifique associé à une idée du consensus qui peut être valable en science, mais qui ne peut pas passer en sciences sociales et sciences humaines.
Et du coup, et qui est un leurre de toute façon, non ?
Exactement.
Oui.
Et du coup, on voit quand même une bifurcation. En sciences, ils sont très fiables en gros sur toutes les choses techniques, même en sciences des choses assez complexes, ils sont très très fiables. On le voit par exemple quand on se rend compte que le gouvernement allemand a décidé d'investir quand même une somme importante pour que les grands spécialistes rédigent les articles en biologie, ainsi de suite. Quand on passe dans les domaines plus difficiles, dans ce sens-là, en sciences humaines, en littérature, en poésie, même en sciences sociales, on trouve une pauvreté qui pose un vrai problème, et ça, je peux faire l'écho. En même temps, c'est là où il y a quand même une invitation à améliorer, à contribuer et à collaborer.
Oui, c'est le principe même de cette encyclopédie.
Exactement.
Mais chacun peut-il contribuer
Il n'y a aucune raison pour ne pas le faire.
Le système peut-il se réguler comme il le prétend, avec suffisamment de crédibilité.
Dans les domaines qui sont les sciences humaines, ça va être très difficile, sauf s'ils acceptent de modifier leur modèle éditorial. Parce qu'autrement, je ne vois pas comment ils peuvent pouvoir le faire.
Oui. Revenons à la notion de sociabilité qui est aussi au cœur du livre. Vous convoquez les textes des anciens, notamment sur l'amitié, des textes fameux d'Aristote, de oui. Cicéron, aussi de Bacon, pour interroger l'amitié à l'ère numérique et montrer en quoi elle diffère, enfin, ces textes pouvaient être finalement assez complexes, présenter une amitié, des formes d'amitié assez complexes. Or, l'amitié avait en germe, si je vous ai bien compris, était une notion suffisamment simple en germe pour qu'elle soit appropriée, pour qu'elle puisse être, que Facebook, des réseaux comme Facebook, puissent se l'approprier et en faire l'usage que l'on sait, usage galvaudé ou non, c'est à chacun d'en décider. Mais en tout cas, votre démonstration, ça marche. Est-ce à dire que l'être humain ne change guère en dépit des mutations numériques qu'on a évoquées depuis le début, puisque des textes anciens peuvent encore servir de crible pour interroger des notions telles que l'amitié, même vu à la lumière de Facebook.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça change et ça change pas. C'est ça que j'essaie de dire. C'est parfois pas très satisfaisant, mais je crois que c'est comme ça, en tout cas pour moi. Quand on regarde les discours classiques sur l'amitié, on trouve des fonctions, des caractéristiques qu'on retrouve aujourd'hui dans l'amitié numérique qu'on appelle friending pour la distinguer de l'amitié concrète dans la vie réelle, entre guillemets. En même temps, moi, ce qui m'a passionné dans ce parcours, ce que j'ai essayé de démontrer, c'est en effet comment ces concepts clés de base restent à la fois potentiellement très très enrichissants, même avec tous les usages qu'on croit qui sont les plus éloignés de ces pratiques. Et c'est là où on voit aussi, surtout quant à moi, la puissance de la technique et de son imaginaire. Parce qu'elle a su adapter, incorporer, intérioriser des choses tellement fondamentales pour la sociabilité et la société qu'elle nous invite à les relire et à les revisiter. Et c'est là aussi quelque chose qui échappe au créateur. Et c'est ça qui est important. C'est notre rôle à nous de faire parler de cette manière, non pas à eux.
Oui. Mais l'amitié dans toute sa complexité survit-elle à Facebook ou en tout cas, disons, à la civilisation présente qui naît du numérique?
Absolument. Oui, absolument. Moi, je crois absolument. Évidemment, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a 2000 amis, dire ce sont des vrais amis, mais néanmoins, quand on regarde de près, et les études ont été faites par exemple par Dominique Cardon, qu'il y a des degrés de visibilité de l'amitié qui sont modulables en fonction des degrés de l'intimité. Et là, on voit quand même la complexité et la richesse de ces réseaux. C'est-à-dire, on a comme une société un peu élargie, 4 ou 5 ou 10 peut-être, mais c'est souvent 4 ou 5, qui sont de vrais amis intimes, comme on dit, et d'autres qui sont un petit peu dans un cercle plus éloigné. Et en fonction de ces distances qui existent, il y a des manières de visibilité, de révéler, de partager et de s'associer qui sont différentes.
Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs Facebook a ajusté les paramètres
de confidentialité. Ils étaient toujours obligés, exactement, oui. Parce qu'ils ont compris aussi que les usages les obligeaient à le faire.
Oui. Un élément, et puis après on pourra peut-être faire une pause histoire de se dégourdir les jambes, de passer à l'étape de l'échange avec le public, mais un élément que vous soulignez également dans votre livre, c'est le retour en force du récit qui serait une caractéristique de la civilisation numérique. Donc le récit étant ce discours qui doit introduire une sorte de proposer en tout cas une sorte d'explication des changements, en tout cas accompagner les changements, les raisonner et rassurer peut-être les gens qui sont au premier chef, qui subissent ces changements ou qui en sont secoués. Qui élabore ce récit ou ces récits? Est-ce que, encore une fois, est-ce que toute la société peut y participer ou est-ce que ces récits sont-ils si fragmentés, si différents aussi qu'ils échappent à tout contrôle?
Ils échappent au contrôle parce qu'ils sont en partie nés de certaines fonctions introduites par les plateformes. Et ces fonctions sont héritées des gestes éditoriaux classiques, mais avec des petites modifications. Par contre, ce qui est différent, et ça, je crois, c'est nouveau, qu'on n'avait pas avant, c'est l'association à cette reconstruction du narratif à une identité numérique. Il se trouve que l'identité numérique est assez particulière, surtout aujourd'hui, bien qu'elle est à la fois polyphonique, c'est-à-dire on va être dans diverses manières, mais surtout, c'est la traçabilité. C'est-à-dire, toutes toute action, toute présence est tracée et a son historique. Et du coup, l'identité devient l'historique de l'agrégat d'une présence sur un réseau. Si cet historique se trouve associé à une construction narrative, ça donne une forme de validité qui sera comme la signature autorisée. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que ces récits, disons, sont construits par des fragments, parce que même dans la structure, c'est tabulaire. C'est-à-dire, on prend des morceaux d'un côté, on les assemble dans une forme de continuité temporelle, et on leur assigne un titre, une forme de cohérence ou d'intelligibilité qui est signée et on partage le total. Or, c'est pas nécessairement tellement révolutionnaire, se rappeler que la description, le cas ultime de la description était l'énumération dans les traités de rhétorique. On a retrouvé les structures rhétoriques classiques, mais avec des outils qui permettent néanmoins de faire entrer, non pas des lieux communs, comme c'était le cas dans le passé, mais plutôt des lieux qui ne nous appartiennent même pas, et qu'on peut les rassembler de manière très très facile, sans tenir compte des sources. C'est ça ce qui a quand même changé.
Oui, et qui modifie en profondeur notre façon, la perception de soi, par
Absolument,
exemple.
Absolument, exactement. L'identité numérique, on le voit par exemple dans la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est quand vous avez votre ordiphone, votre smartphone, et vous êtes géolocalisé avec votre avatar dans un certain lieu. Vous vous observez vous-même et on vous parle souvent, par exemple, dans des applications, et vous entendez avec votre avatar. C'est très intéressant, on voit à la fois cette dissociation entre l'identité numérique dans son incarnation dans un avatar, et en même temps le contrôle qu'on a sur cette identité. Et c'est ce double jeu qui est de plus en plus difficile à gérer.
Oui. Quelle vie pour les analphabètes du numérique, parce que ça existe tout de même un peu, ou en tout cas des gens qui sont encore de l'ancien monde, on va dire, et qui ne peuvent raisonner en termes d'avatar ou d'identité, et qui ne le souhaitent pas d'ailleurs, d'identité augmentée, et ça les effraie plutôt de penser qu'il existe une chose pareille.
Pour l'instant, ils peuvent vivre tranquillement. Je crois dans 15 ans, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile. Mais par contre aussi, il faut regarder de l'autre côté. On regarde par exemple dans l'Afrique, où ils n'ont pas eu Internet. À cause de tout ce qu'on sait, ils ont eu le téléphone mobile, ils ont fait le saut, ils ont les usages qui sont nos usages numériques, sans avoir passé cette phase qui était presque intermédiaire, parce qu'on a souvent oublié que le réseau cellulaire a convergé de manière quasi transparente avec le réseau Internet, que pour nous c'est devenu deux choses
qui se confondent.
Et ce n'est pas le cas. Mais il y a des civilisations ou même soit des gens des analphabètes qui commencent à mettre en place des pratiques assez différentes à cause de la sociabilité et des conditions socio-économiques, mais néanmoins qui exploitent également. Mais à la longue, j'imagine pas qu'on peut être un analphabète comme on peut pas être un analphabète en pur et simple.
Oui, très bien. Alors Milad Doili, c'est passionnant. N'est-ce pas que c'est passionnant? Alors on va marquer une petite pause, comme on a dit. Vous fourbissez vos non pas vos armes, mais vos questions. Et puis ça, on va pouvoir poursuivre cette fois-ci l'échange avec le public. Donc rendez-vous dans 10 minutes. Alors, je vous inviterai à prendre place pour la deuxième partie de notre rencontre qui se déroule, puisque nous avons compris, nous le savions, que c'est l'usager roi, le lecteur roi, c'est bien tout ce que nous sommes et que vous êtes aussi, tout en étant auteur et professeur par ailleurs, vous êtes aussi participant de cette culture-là, au même titre que
absolument,
nous.
Absolument, absolument.
Alors, c'est l'occasion donc d'échanger avec Milad Doili, auteur de La Grande Conversion Numérique et Pour un Humanisme Numérique. Alors, est-ce qu'il y a d'emblée, est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans le public? Quelqu'un voudrait intervenir à partir de ce qu'on a dit un peu plus tôt? Oui, madame. Alors, je vais reformuler. reformuler la question pour les auditeurs de Radio Spirale. D'accord. Madame, dans un premier temps, déplore le fait que, en tout cas, souhaite acquérir pour elle-même une aisance plus grande avec la culture numérique, telle que vous la pratiquez, notamment parce qu'elle estime passer trop de temps empêtrée, on pourrait dire, c'est pas le terme qu'elle a employé, mais empêtrée, occupée à lire les commentaires, par exemple, d'un article plutôt qu'à lire l'article lui-même. Mais à partir de là, évidemment, on pourrait lui rétorquer ce qu'elle fait elle-même, que c'est à elle de gérer son propre temps de lecture. Mais d'autre part, donc, la question qu'elle demande, est-ce qu'on peut acquérir une culture des connaissances philosophiques réelles, profondes, à partir de la culture numérique telle qu'elle se déploie sous nos yeux et qu'elle se pratique sous nos yeux?
À mon avis, absolument oui, parce que, à mon sens, la culture numérique telle qu'elle est aujourd'hui permet un accès aux textes philosophiques, éthiques importants, et surtout, dans mon expérience en tout cas, on est presque toujours autodidacte à la fin. Qu'on soit universitaire ou non, on apprend parfois avec quelques enseignants qui jouent un rôle important, déterminant dans notre carrière, dans notre esprit, dans notre pensée. Mais en gros, ça revient à nos manières de lire et comment on lit et comment on rassemble nos lectures. Dans ce sens-là, il me semble qu'il n'y a aucun doute. Même, je dirais, plus loin que là, dans mon expérience, à la fois avec les étudiants et avec les collègues et les amis, au début, il y a une sorte de perte dans la richesse, dans l'abondance, mais après il y a une sorte de retour de concentration sur les sujets, sur les thèmes qui nous parlent. Et là, on trouve que la culture numérique permet l'accès aux textes importants, qu'ils soient philosophiques, politiques ou autres, et surtout des lectures très très puissantes. Et du coup, moi je dis que absolument oui. Par contre, ce qu'il faut, c'est savoir trouver. Et ça, je serais d'accord avec vous qu'au début, ce n'est pas nécessairement aussi évident ni aussi facile que ça doit l'être. C'est-à-dire ces textes, leurs commentaires, il suffit de regarder, par exemple, pour les textes de l'Antiquité, on a des ressources étonnantes qui sont disponibles en ligne, qui sont savantes, érudites et de libre accès, qu'avant il fallait avoir une fortune ou l'accès à une très grande bibliothèque universitaire pour pouvoir lire ces textes.
Alors se pose la question du tri, en fait, comment se repérer, comment naviguer, pour reprendre les termes informatiques, dans cette mer de connaissances?
Là, je crois qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire il faut maîtriser. Tout d'abord, on est depuis le début, mais aujourd'hui plus que jamais, sous moi ce que j'appelle le pouvoir de l'index. C'est-à-dire, c'est de la nature même de cette surabondance de données, de textes, d'images, qu'on ne peut pas naviguer d'une manière relativement simple pour trouver ce qu'on cherche. On est obligé de passer par un moteur de recherche qu'on connaît tous, qui s'appelle Google, qui domine. Mais il se trouve que leur modèle de pertinence, si on va au-delà des choses de base, ne sont pas aussi faciles pour nous pour trouver ce qu'on est en train de chercher. Et c'est là où une certaine forme de compétence numérique est essentielle à ce niveau-là.
Oui. Et la question de madame portait sur la culture philosophique, ou le savoir philosophique précisément, mais votre réponse au fond, et la question peut porter sur tout type de savoir dans tout domaine.
Oui, mais il y a aussi pour la philosophie, il y a un exemple qui est donné par un ami à moi, Paolo Di Orio, qui prend deux exemples, un des présocratiques et Aristote. Et il dit la chose suivante, Aristote, il a eu beaucoup plus de lecteurs, beaucoup plus d'étudiants parce qu'il était dans l'accès libre, alors que les présocratiques étaient tout à fait dans le contraire, ils ont eu très très peu, on n'a que des petits fragments, on essaie depuis toujours d'essayer de les comprendre et de voir ce qu'ils disent. Il y a quand même en philosophie, on voit que cette pratique de l'accès qui peut au début décevoir par une forme de simplicité de la lecture d'une interprétation, mais qui à la longue, je crois, permet à la fois à l'individu et à la collectivité de faire avancer et d'améliorer la lecture et de l'approfondir.
D'autres commentaires, questions? Monsieur? Alors, y a-t-il un juste milieu pour ce qui est de la construction d'identité telle qu'elle se donne à voir dans la culture numérique, dans ces deux pôles que monsieur dégage, c'est-à-dire un pôle, disons, plus tourné vers le savoir, quel était le premier pôle que vous avez évoqué?
Les blogs,
etc. Tourné vers soi, c'est-à-dire l'expression de soi, et le deuxième pôle étant la dimension un peu plus hacker, pirate, enfin plus libertaire aussi, on pourrait dire nomade. Alors, y a-t-il
Moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a une tradition, il y a une dimension nomade dans l'activisme, disons. Mais néanmoins, quand on regarde du côté des hackers, la notoriété est essentielle et même déterminante. Il y a une forme de narcissisme, d'affirmation de l'identité de soi qui est absolument très très puissante. Par contre, elle est à distinguer, et là je suis d'accord avec vous, je retrouve, des formes de narcissisme du modèle de la confession qui a marqué la première étape, la première époque des blogs qui étaient souvent des formes du journal et qui ont évolué depuis vers l'opinion, vers le commentaire, un peu l'analyse, ça reste à voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les deux cas, on peut observer néanmoins une construction de l'identité dans le cadre du numérique qui est en train de se détacher, mais seulement en partie, de nos modèles classiques de l'identité. C'est-à-dire, pour dire les choses un peu rapidement, l'identité classique est à la fois généalogique et territoriale. Sol et sang, comme on disait souvent. Or, il se trouve que l'identité numérique n'est ni l'un ni l'autre de la même manière. On est maintenant géolocalisé, mais ça compte pas de la même manière. Quand vous regardez pour avoir votre passeport, on vous demande souvent votre certificat de naissance. C'est très très intéressant. Il n'y a pas de certificat de naissance en numérique. Il y a ce qu'il y a, et c'est cela où on trouve les difficultés, et on vous demande une autre identité numérique pour légitimer et valider celle que vous allez créer. Il y a une sorte de transitivité qui est importante. Mais même au-delà de là, si je comprends très bien votre question de la juste milieu, on n'a pas encore trouvé la manière d'avoir une continuité entre l'identité telle qu'elle est établie de manière juridique et l'identité numérique, bien qu'elle soit très juridique, mais à sa manière. Effectivement, les façons d'agir, surtout par les hackers, ça reste quand même pour moi une culture, pour reprendre une expression de Bourdieu, de la distinction. On est là pour démontrer sa maîtrise. Ça peut être dans une forme d'anonymat collectif, mais néanmoins, il y a toujours une... ça, on l'a vu, je sais pas, on le voit tout le temps.
Ouais. Mais encore là, est-ce qu'il n'y a pas une continuité? De la même manière que, je ne sais pas, moi, il y avait des bandits fameux se distinguaient par leur prouesse. On pourrait imaginer, on voit là, quelque chose de semblable là, qui peut se mettre en place.
Et le modèle, il est, c'est-à-dire, on démontre sa maîtrise.
On force l'admiration.
Exactement, et souvent on peut trouver un job aussi. C'est le cas le plus classique.
Oui.
Le type qui a jailbreaké le premier iPhone travaille pour Apple aujourd'hui. Mmh. Ça a toujours été le cas. Les grandes entreprises en comprennent très très vite que les gens qui sont doués pour pénétrer la sécurité, pour dévrouiller tout ce qui a été chiffré, ainsi de suite, le meilleur moyen, c'est... Mais ça, quand même, a une autre conséquence pour moi. Ça montre qu'on ne peut plus construire des modèles, qu'ils soient sécuritaires ou de contrôle, de gestion, de droit, autre chose, dans un univers clos. Pourquoi ? Parce que la nature du numérique expose et incite et invite à partager la construction pour donner lieu à un format beaucoup plus solide. On a toute une série d'exemples dans l'histoire du numérique, de formats qui étaient développés sur le modèle clos, qui n'ont jamais bien fonctionné, parce qu'ils n'étaient ni très puissants, ni très, très sûrs.
Commentaires, questions ? Vous avez parlé de certificat de naissance dans le monde numérique comme étant un élément. En tout cas, il n'existait pas dans le monde numérique d'équivalent juridique ou par exemple au certificat de naissance dans le monde réel. Mais j'ajouterais qu'il n'existe pas non plus de certificat de décès, pourrait-on dire, d'avis de décès, puisque vous dites à un moment donné que l'impensé du numérique, c'est l'oubli. Il n'est pas possible. Alors, il n'est pas possible de mourir sur Facebook, ou en tout cas on voit qu'il y a eu des entreprises qui se sont mises en place pour... Alors, cette notion d'oubli, c'est là où vous devenez aussi encore plus critique par rapport à ce monde, c'est-à-dire que la machine ne peut pas concevoir l'oubli, ça lui échappe, elle accumule des données et elle atteint là ses limites.
Oui, pour moi c'est-à-dire la technique, surtout la technique informatique, ne peut pas concevoir l'oubli que sauf sous la forme d'une faille ou d'une perte. Or, il se trouve que, on le sait depuis Aristote, pour ne pas aller plus loin, que c'est grâce à l'oubli qu'on évolue et qu'on apprend. Il y a des formes d'oubli qui sont des formes qui produisent, qui permettent d'évoluer, qui ne sont pas capables d'être intégrées à la machine. Alors, sur cette question, il y a plusieurs conséquences. Par exemple, la constitution de notre patrimoine a été faite par ce qui y a survécu en grande partie. Aujourd'hui, on est en train d'inverser ce rôle. Pourquoi ? Parce que le numérique et la technique ont imposé leur modèle en disant « il faut faire le choix avant de ce qu'il faut préserver ». Et du coup, on est en train de redéfinir notre manière de créer notre propre patrimoine. Et c'est énorme quand on y réfléchit.
Oui, parce que ce patrimoine se définit par accumulation. Exactement. Alors que ce qui a été retenu dans le passé, nous savons que c'est tributaire largement, c'est aléatoire. Enfin,
absolument, exactement. Et c'est là où on voit le pouvoir de la civilisation technique à modifier notre culture. Et pour moi, c'est un vrai problème. Ça, en tout cas, avec l'oubli, c'est un vrai problème. Et j'ai parlé même avec des spécialistes très importants qui, pour des algorithmes, ils m'ont expliqué qu'ils ne peuvent pas coder l'oubli à l'humain. C'est ça ce qui est très intéressant. C'est-à-dire, il n'y a pas d'algorithme qui peut reproduire ça. On le comprend. Et surtout parce que c'est dans la conception de la machine elle-même, de la technique, ça n'a pas lieu. Pour le patrimoine, à mon avis, il faut qu'on trouve des solutions, parce que effectivement on est en train de réinventer ce que c'est que le patrimoine.
Et pourtant l'oubli est nécessaire. Que serait une société qui n'intègre pas l'oubli, qui n'intègre plus l'oubli?
C'est monstrueux.
C'est monstrueux, c'est totalitaire.
C'est totalitaire et c'est monstrueux. Et c'est là où, pour parler d'une manière simple, ce qu'on a appelé le droit à l'oubli, c'est-à-dire que l'individu doit avoir la possibilité de faire effacer certaines des données. Mais à mon avis, ça doit aller beaucoup plus loin que ça aussi. Il faut repenser, parce que, en fin de compte, c'est notre rapport avec la mémoire. Et on le sait très bien que c'est quand même capital.
Oui. Mais peut-on peser, peut-on modifier les machines, enfin, cette espèce de d'élan qui entraîne, qui semble entraîner, en tout cas, nos sociétés, élan numérique?
Je sais pas si on peut, mais ce qu'on peut, c'est modifier nos rapports avec ce que les machines nous permettent de faire. Ça, absolument oui. Il faut pas se laisser séduire. Et comme si c'était absolument nécessaire et inévitable de faire quelque chose qui peut-être ne l'est pas.
Ouais, qui devenait irrésistible.
Exactement.
Faussement irrésistible. Oui. Question, commentaire? Oui, monsieur. Alors, que prévoyez-vous pour le numérique, au sujet du numérique pour les 5-10 prochaines années? Telle est la question de monsieur. Peut-on se hasarder à faire des prédictions en la matière?
Je ne suis pas du tout fort dans la matière, disons. La seule chose que je puisse dire pour répondre à votre question, c'est qu'il me semble, et vous l'avez dit à mon sens, c'est que ce qu'on va voir d'ici à 5 ans ou 10 ans, c'est quelque chose qui a déjà commencé. C'est-à-dire, jusqu'à un certain temps, les interfaces numériques nous permettaient l'accès à des fonctionnalités spécifiques. Or, il me semble qu'aujourd'hui, c'est le monde qui devient l'interface vers le numérique lui-même. C'est ça ce que je crois. On va voir l'évolution dans cette direction-là. On le voit déjà. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher quelque chose qui sera utile pour une certaine activité ou peu importe, c'est le monde au fur et à mesure, on nous parle du web des objets, on nous parle de tout ce qui va arriver, et c'est déjà en partie là, mais c'est le monde qui devient l'interface vers le numérique lui-même. Et c'est là aussi on voit où il faut investir cet espace, et non pas seulement le subir ou laisser quelqu'un d'autre le décider pour nous.
Oui. Le décider ou le dessiner aussi.
Il le dessine, et moi je l'ai dit dans le livre, pour moi c'est essentiel, on a tellement oublié la dimension esthétique, qui est déterminante aussi, parce qu'elle joue beaucoup, que ce soit avec les interfaces, ou les icônes, les objets, tout ce qu'on sait, il faut absolument qu'on soit actif, et c'est une forme de responsabilité, et c'est là où on a des difficultés, c'est que pour l'instant, mais c'est mon expérience très limitée, je ne connais pas le Canada aussi bien parce que je viens d'arriver, que les hommes politiques là où j'ai vécu n'ont aucune maîtrise sur le numérique, ils ne comprennent même pas en grande partie, mais en même temps c'est eux qui décident énormément de choses très 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 importante. Il faut une forme de pédagogie à la fois pour les soi-disant décideurs, mais aussi pour le citoyen.
Question, commentaire? Oui, madame. Alors, la question de madame, est-ce que les grandes mobilisations qu'a permis le numérique, notamment, en tout cas en partie, occupant Wall Street ou le printemps arabe, favorisé peut-être, étendu par le numérique, est-ce que vous y voyez quelque chose de comparable?
Moi, je crois que le numérique a joué un rôle important, mais il n'est pas le seul, et il n'est pas le seul déterminant, surtout dans le printemps arabe.
Mais est-ce que c'est une forme d'humanisme numérique, demande madame?
Pour moi, absolument, parce que l'humanisme numérique modifie notre rapport avec le politique dans la mesure où il met en place un idéal qui est ancré dans un modèle de la collaboration et de la participation et surtout de la transparence. On l'a vu dans le monde arabe, c'est la première fois que cet idéal qui a joué un rôle de rassembleurs entre des générations différentes qui pour la première fois se sont réunis pour quand même protester d'une manière inédite dans une région où la violence était permise. Et c'est le pouvoir symbolique de cet idéal a joué un rôle quand même capital. Et il me semble que c'est une dimension pour moi de cet humanisme numérique. Malheureusement, et c'est mon opinion, on a tendance à associer ces mutations à l'usage d'un outil. Est-ce que c'est Facebook en Égypte, Twitter en Tunisie, par exemple? C'est un débat qui a duré pendant des mois. Pour moi, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est la manière dont l'outil a permis une conception autre de la participation dans une société, et ça vient de ce que le numérique comme culture permet.
Et donc c'est une manifestation d'un humanisme numérique, oui, en train de se faire. Oui. Question, commentaire? Alors peut-être le mot de la fin, avec une question délibérément, j'allais dire, presque naïve dans sa formulation. Est-ce que tout ce que nous vivons lié au numérique est-il vraiment sans précédent dans l'histoire de l'Occident? Rien de comparable, rien ne peut lui être comparé, par exemple, comme changement là, de mentalité. Je pense, par exemple, aux grandes explorations au XVIe siècle ou qui ont modifié les perceptions fondamentalement, là, le cours de la civilisation. Est-ce que c'est du même ordre? Est-ce que c'est une manifestation de plus ou c'est sans commune mesure avec ce que nous avons connu?
Je crois que c'est du même ordre, mais c'est pas la même chose à cause de l'échelle. Effectivement, avant, c'était ou bien restreint au monde occidental, ou bien restreint à une petite partie, qu'elle soit aristocratique, riche ou guerrière. Aujourd'hui, néanmoins, c'est à une dimension qui touche toutes les générations et toutes les populations, plus ou moins en tout cas. Et quand même, on n'a jamais vu ça en même temps. Effectivement, les effets des explorations, au fur et à mesure, ont modifié la géographie humaine, mais quand même avec des siècles. Ici, on est depuis quoi, 25 ans, en gros, avec le numérique. On voit très bien qu'on est quand même en train de vivre quelque chose qui touche à presque tout. Il y a aujourd'hui quoi, 1 milliard d'utilisateurs d'Internet. C'est énorme. Et on s'imagine, évidemment, on va avoir plus, surtout avec les nouvelles et les jeunes générations. Et du coup, à mon avis, la question de l'échelle distingue en tout cas, le numérique de ce qui a précédé.
Ouais. Donc l'échelle, et puis on a vu l'accumulation d'une mémoire encombrée de toutes les traces.
On est des malades de mémoire avec le numérique, si j'ose dire.
Alors, vivement un peu d'oubli, peut-être, certainement un peu d'oubli, un peu de temps, réintroduire le temps dans ce qui nous arrive à travers le numérique. Milad Dolim, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice de l'entretien et de l'échange avec le public. Donc, Milad Douéhi, La grande conversion numérique et votre tout dernier titre pour un humanisme numérique. Ces deux ouvrages parus aux éditions du Seuil dans la librairie du 21e siècle, disponibles bien sûr dans toute bonne librairie, sous format imprimé et puis aussi, j'imagine,
bientôt, ils sont toujours en train de...
On n'y échappera pas. Très bien, merci Milad Douéhi.
Merci à vous.